journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Faire des enfants plutôt que d'accueillir des migrants. Le credo de Viktor Orban qui reçoit aujourd'hui à Budapest le banc et l'arrière-ban des droites identitaires. Le Premier ministre hongrois organise un sommet démographique. Il veut promouvoir la famille traditionnelle dans un pays qui ne cesse de perdre des habitants. Nous serons sur place. Les boîtes de nuit à jauge pleine dans les départements où le Covid circule le moins. C'est l'autre annonce du gouvernement hier. Les professionnels se réjouissent, vous les entendrez. Dans ce journal aussi, le procès du 13 novembre et l'identification des victimes au cœur de l'audience d'aujourd'hui. Les enseignants appelés à la grève alors que le gouvernement vante, lui, l'augmentation du budget de l'éducation nationale. Et TF1 qui ose un sujet très lourd pour sa nouvelle fiction, la prostitution des mineurs.
Au micro de Yaël Gauz, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
France Inter.
Et les droites identitaires du monde entier, Alexis, se retrouvent à Budapest pendant 2 jours.
À l'invitation du Premier ministre hongrois Viktor Orban, il organise donc ce sommet démographique international, mais seulement avec ceux qui partagent ses idées. Sont conviés notamment l'ancien vice-président américain Mike Pence et pour la France, Marion Maréchal et demain Éric Zemmour. Objectif pour Orban, promouvoir la natalité et le modèle de la famille traditionnelle, car dans son pays, c'est comme cela qu'il compte relever un défi majeur. Les Hongrois ne font pas assez d'enfants aujourd'hui. À Budapest pour Inter, Florence Labruyère.
La population hongroise ne cesse de baisser. Le pays pourrait perdre 1 million d'habitants d'ici 2050. Pour le Premier ministre Viktor Orban, pas question de compenser ce déclin en accueillant des étrangers.
L'option la plus facile choisie par la plupart des pays occidentaux, c'est d'accueillir des migrants pour compenser la baisse des naissances. Nous, les Hongrois, ce ne sont pas les chiffres qui nous intéressent. Nous voulons des enfants hongrois.
Pour inciter les Hongrois à faire plus d'enfants, toute une batterie de mesures a été mise en place. Les allocations familiales ont doublé, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants ont droit à une aide sociale et les femmes qui ont 4 enfants ne payent plus du tout d'impôts. Surtout, il y a ces prêts subventionnés de 30 000 euros pour les familles qui veulent s'agrandir et acheter un logement. Plus de 100 000 foyers en ont déjà bénéficié. Selon le gouvernement, cette politique porte ses fruits. Le nombre de mariages a augmenté de 45% et le taux de fécondité, qui était l'un des plus bas d'Europe, se rapproche de la moyenne européenne. Les critiques soulignent que si la Hongrie se dépeuple, c'est parce 1 million de Hongrois a quitté le pays pour chercher un job mieux payé dans l'Europe de l'Ouest ou pour échapper au régime autoritaire de Viktor Orban. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
Après le coup de fil Biden-Macron hier, un nouveau signe ce matin du début de réchauffement diplomatique entre la France et les États-Unis. On apprend que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, doit rencontrer aujourd'hui son homologue américain Anthony Blinken en tête-à-tête. Ils se sont déjà croisés hier soir, mais c'était lors d'une réunion plus large des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'inverse, ça se tend de nouveau entre l'Algérie et le Maroc, 1 mois après la rupture des relations diplomatiques. Alger décide la fermeture de son espace aérien à tous les avions marocains. La présidence algérienne fustige, je cite, les provocations de son voisin. Et c'est inquiétant selon les experts, on va y revenir dans le journal de 8h. Juste à côté, en Tunisie, le président renforce encore ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du parlement. Kais Saied s'arroge le droit de légiférer par décret, faisant fi de la constitution. Ça reste transitoire, assure-t-il, mais ça provoque ce matin la colère des islamistes d'Ennahdha.
Il est 7h33 au procès des attentats du 13 novembre 2015. On va parler aujourd'hui de l'identification des victimes.
Et cela s'annonce une nouvelle fois éprouvant pour les parties civiles. Oui, la Cour va se pencher sur l'identification des victimes à l'Institut médico-légal dans les heures qui ont suivi les attentats. Dans le chaos, des erreurs ont parfois été commises à ce moment-là. Nouvelle journée difficile donc. Après déjà les paroles fortes hier des policiers intervenus au Bataclan. Le dernier à se présenter à la barre dans la soirée, c'était l'ancien patron de la BRI, Sophie Parmentier.
Christophe Molmy, ex-patron de la BRI, précise qu'il témoigne aussi en tant que partie civile. Il a perdu un ami au Bataclan, a découvert son corps dans la fosse après l'assaut final mené au balcon contre les 2 derniers terroristes qui retenaient des otages dans un étroit couloir. Christophe Molmy a raconté devant la cour la difficulté de cet assaut, balayant les reproches de ceux qui estiment que la brigade anticommando a mis trop de temps à neutraliser les derniers kamikazes.
Il fallait impérativement sécuriser le rez-de-chaussée avant de monter dans les étages d'un point de vue tactique. Donc, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de terroriste ni d'engin explosif improvisé. Ça prend du temps. Aux environs de 23h15, on arrive devant une porte. Et lorsque le premier de colonne va pour ouvrir cette porte, il entend hurler derrière. En fait, c'est un otage qui hurle. Il hurle que derrière la porte se trouve une douzaine d'otages sous la menace de terroristes avec des kalachnikovs, des gilets explosifs. Donc la priorité, c'est de sortir les otages vivants avant tout. À minuit 18, il y a un cinquième appel avec les terroristes. Et là, je décide de passer à l'assaut, donc je lance l'assaut.
Dans la salle d'audience, des otages libérés et des survivants blessés se tiennent en rang serré, regard admiratif. Ils sont venus dire à la BRI et à tous les policiers intervenus au Bataclan un merci. À jamais.
Sophie Parmentier au procès des attentats du 13 novembre. C'est une première photographie de la course à la présidentielle à droite. LR révèle les résultats de son enquête d'opinion auprès de 15 000 sympathisants et électeurs de droite. Eh bien, Xavier Bertrand recueille le plus d'opinions favorables sur la sécurité, l'immigration et sur les chances de qualification pour le second tour. Mais il ne plie pas le match, le patron des Hauts-de-France. Il est talonné toujours par Valérie Pécresse. Les militants, les Républicains choisiront ce week-end entre la primaire ouverte et un congrès réservé aux seuls adhérents pour désigner le candidat en 2022. D'après ce sondage, les électeurs de droite privilégient la seconde option, le vote restreint. Vous retrouvez tous les résultats de cette enquête en détail sur franceinter.fr. En concert ou en boîte de nuit, fini les jauges à partir du 4 octobre dans les départements où le virus circule le moins, là où le taux d'incidence Covid passe en dessous de 50 pour 100 000, comme l'a annoncé le gouvernement hier. Une très bonne nouvelle pour les discothèques, réagit ce matin Bruno Kerdal. C'est le patron de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie dans le Morbihan.
C'est quelque chose qu'on a demandé déjà depuis quelques temps, puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux cas détectés dans les discothèques. Ça veut dire que le protocole est bien respecté, que les professionnels font bien leur travail. Et c'est quand même une profession qui a été fermée administrativement pendant 15 mois. Donc c'était vital de retrouver une activité pleine au plus vite. Et effectivement, un passage de jauge à 100% va leur redonner de l'oxygène encore davantage. Il faut souligner aussi que les discothèques ont connu une bonne reprise depuis le 1er juillet. À partir du moment où vous arrivez à 75% de votre capacité d'accueil, et ben forcément, vous étiez contraint de refuser du monde. Et donc, pour les petites discothèques, effectivement, ça a été le cas. Ce qui n'a pas été forcément le cas dans peut-être les grosses structures.
Bruno Kerdal, le président de l'UMI du Morbihan avec France Bleu Armorique. Plus de jauge donc dans les départements verts, mais toujours le pass sanitaire pour l'instant. En revanche, les écoliers pourront retirer le masque en classe dans ces mêmes départements. Ce qui ne rassure pas vraiment ce matin les syndicats enseignants. C'est imprudent pour le SNUIPP-FSU, première organisation enseignante du premier degré, car je cite, ces élèves-là ne seront pas vaccinés. La FSU, qui comme trois autres syndicats de professeurs, appelle à la grève aujourd'hui. Ils réclament un plan d'urgence pour l'école, création de postes face aux classes surchargées, revalorisation salariale. Pourtant, répond le gouvernement, l'éducation nationale va profiter d'une nouvelle rallonge budgétaire l'année prochaine. 1,7 milliard d'euros en plus, notamment justement pour un coup de pouce salarial. En fait, c'est l'un des ministères les mieux servis dans le budget dévoilé hier, Fabien Cazot.
Il y a d'abord les enveloppes dédiées aux revenus des personnels de l'éducation nationale, 700 millions d'euros dans ce dernier budget du quinquennat, en incluant la protection sociale complémentaire, qui s'ajoute aux 400 millions déjà prévus cette année pour les enseignants en début et milieu de carrière, mais aussi pour d'autres catégories de personnel comme les inspecteurs, les directeurs d'école ou encore les accompagnants d'élèves handicapés. Concernant ces derniers, le projet de loi de finances prévoit par ailleurs une poursuite des recrutements au même rythme que cette année, 4000 pour la rentrée de septembre 2022. Une fois de plus, l'école primaire sera la grande gagnante des hausses de budget. La limitation à 24 du nombre d'élèves dans les classes de CP-CE1 hors éducation prioritaire sera parachevée en 2022, alors que dans les zones REP ou REP+, le dédoublement des classes continuera de s'étendre aux grandes sections de maternelle. En tout, souligne le gouvernement, l'effort consacré à l'enseignement scolaire aura augmenté de 6 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat.
Fabien Cazot, chef du service économie d'Inter. Deux fois moins de bachelors bacheliers sur le carreau que l'an dernier à la fin de Parcoursup. Ils sont 239 à n'avoir reçu aucune affectation à l'université en cette rentrée, contre 591 en 2020, selon le ministère de l'Enseignement supérieur.
Il est 7h39, la prostitution des mineurs au cœur d'une fiction télé sur TF1.
La chaîne diffuse à partir de ce soir Fugueuse, mini-série en 6 volets sur ce phénomène qui concernerait au moins 7 à 10 000 jeunes filles et garçons en France, dans tous les milieux sociaux. Sylvie Testu et Michael Youn incarnent des parents désœuvrés dans cette fiction choc. Vous l'avez vu pour nous, Alexandra Hakoun.
Léa a 16 ans, lumineuse, intelligente, une vraie passion pour la danse, des parents aimants qui font de leur mieux.
Et dis-moi maman, est-ce que ce serait possible que j'ai mon cadeau de Noël en avance ?
Oula !
C'est Myriam qui me propose un stage de danse à Londres, et ce serait top pour préparer mon concours.
Bah écoute, j'en parlerai à papa, mais tu sais, notre budget est pas extensible. Hein.
Une mauvaise rencontre.
Léa, tu fais quoi ?
Je vais rentrer, il est tard.
Bah vas-y, fume un peu avec moi.
Okay. Et pour Léa, tout va basculer.
C'est comme une hôtesse, elle accompagne des types en soirée contre des cadeaux, de l'argent.
Un piège tentaculaire qui laisse les parents démunis.
Comment on a fait pour rien voir ?
Non mais c'est pas votre faute. Elle est sous son emprise complètement. On appelle ça un lover boy. Il manipule les jeunes filles, elles tombent amoureuses et ensuite il les pousse à se prostituer.
Marion Didis est la scénariste de cette adaptation d'un format québécois.
C'est très progressif, c'est un mécanisme qui s'installe. Et puis elle est adolescente, elle est fragile, elle est dans un moment où elle se cherche. Alors c'est sûr, elle tombe sur ce gars qui la valorise en tant que femme. C'est comme ça qu'elle tombe dans la prostitution. Il y a entre 7000 et 10 000 gamines, parce qu'en général c'est quand même des filles, qui sont concernées par la prostitution, ce qui est monstrueux et c'est surtout en augmentation.
Voilà pourquoi, en dépit de certaines longueurs et de clichés un peu poussifs, notamment sur le milieu du rap, Fugueuse n'en est pas moins d'une efficacité redoutable, un uppercut à l'estomac qui pourrait bien ouvrir le débat dans de nombreuses familles.
Alexandra Hakoun pour cette série Fugueuse. Donc les deux premiers épisodes sont à voir sur TF1 ce soir.
Merci Alexis Morel. L'édito politique est à suivre sur Inter.
Si vous avez plus de 65 ans ou une maladie grave, ou si vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen, alors vous êtes concerné par la dose de rappel contre le Covid-19. Après un certain temps, la protection du vaccin diminue et il est important de faire son rappel pour continuer à être protégé. Quand faire votre dose de rappel ? Vous avez plus de 65 ans ou vous avez une maladie grave ? 6 mois après votre dernière injection. Vous avez été vacciné avec le vaccin Janssen 4 semaines après votre injection. Vous êtes immunodéprimé à partir de 3 mois après votre dernière injection et sur avis médical. La dose de rappel se fait toujours avec les vaccins Pfizer ou Moderna, quel que soit le vaccin utilisé précédemment. Alors n'attendez plus. Prenez rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un professionnel de santé. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.